voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Se soigner autrement. L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, causes et effets, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les médecines alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique et nous permettent de soigner notre corps et parfois notre âme. Anne Gervaise Vendange a longtemps travaillé dans le monde de la petite enfance. Aujourd'hui formatrice, elle forme des pédagogues, des professionnels de la santé, à l'hypnose ericksonienne qu'elle nous détaille dans cette deuxième partie de l'émission.
Alors comment ça fonctionne ? Donc, il y a cet état modifié de conscience qui est mis en place. Alors, je trouve que ce qui est intéressant comme question avant celle-ci, c'est peut-être qui est-ce qui peut faire de l'hypnose ? Aujourd'hui, donc la médecine aujourd'hui se réintéresse à l'hypnose. Ça, c'est important de se le dire. Il y a longtemps où, effectivement, elle l'a délaissé en se disant que c'est juste un truc un peu, voilà, un peu perché, malgré le fait, comme je te disais, qu'il y a plein de médecins qui ont continué à s'y intéresser. Aujourd'hui, la médecine s'y réintéresse, notamment dans ce qui est gestion de la douleur, gestion de l'anesthésie. Aujourd'hui, l'hypnose, on en a en bloc opératoire, voilà, pour la gestion des émotions, pour plein de choses.
Fait par les médecins ou par...
Fait par les médecins, ouais. Fait par les médecins. Moi, aujourd'hui, je suis formatrice et il y a plein de médecins que je forme à l'hypnose. Aujourd'hui, dans mes formations d'hypnose, j'ai des accompagnants, bien sûr, qui sont déjà formés à d'autres techniques. J'ai des pédagogues qui viennent s'intéresser à l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est comment est-ce qu'on communique et que donc comment est-ce qu'on apprend. Hein, quand tu viens faire une séance d'hypnose, tu viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est comment est-ce qu'on permet à l'autre d'apprendre mieux. Donc j'ai des pédagogues, j'ai des infirmiers, des médecins qui viennent s'intéresser à comment est-ce qu'on communique mieux à l'autre. Ça peut être pour donner des diagnostics, pour communiquer à ses patients, mais c'est aussi vraiment pour comment est-ce qu'on permet à l'autre de mieux gérer ses émotions dans une opération. Comment est-ce qu'on permet à l'autre aussi d'expérimenter ce qu'on peut expérimenter avec l'hypnose, c'est-à-dire l'anesthésie, l'analgésie, l'antalgie. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a pour une part des professionnels de santé qui se forment à l'hypnose, des psychologues bien sûr, qui viennent enrichir leur technique et qui savent déjà de l'accompagnement avec l'hypnose. Et puis il y a des gens qui se forment à l'hypnose, qui sont déjà accompagnants ou qui viennent en première intention devenir accompagnants avec l'hypnose. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble peut-être une séance d'hypnose, c'est ça, ou comment est-ce qu'on...
Oui, ou on peut peut-être prendre un cas concret, quelqu'un qui va venir avec une problématique. Hein, donc, comment est-ce que ça va se passer ? Comment va se passer la séance ?
Alors, la séance, elle se passe jamais pareil. Et j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, surtout, si vous avez quelqu'un qui vous propose une séance d'hypnose où il va faire la même chose pour tout le monde, ou pour lui, je sais pas, quelqu'un qui arrête de fumer, il va faire la même chose à tout le monde, ça va être la même séance, le même protocole, fuyez. Ok, parce que vous êtes une personne unique et que vous méritez un protocole unique. Et ce qui fait que ça va fonctionner, c'est avant tout que c'est quelque chose qui est complètement adapté à la personne qui arrive, d'accord, et à son fonctionnement personnel. Et on a des manières très différentes tous de fonctionner.
Donc le praticien doit faire preuve de beaucoup d'empathie, de compassion, d'équanimité pour pouvoir ressentir la personne en face de lui.
Absolument. Et je vais même aller jusqu'à d'utilisationnel, de ce qui se présente, de souplesse. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir plein de techniques différentes et d'avoir plein de lectures différentes de l'autre. Hein, et c'est avant tout, quel est ton fonctionnement à toi ? Comment est-ce que tu perçois le monde ? Quelles sont tes croyances ? Comment est-ce que tu perçois ta réalité, comment est-ce que tu fonctionnes, même en termes un peu structurel, comment est-ce que tu lis le monde à travers ta manière de le voir, quoi, hein, tout simplement. On est beaucoup en hypnose sur le principe, en PNL, comme sur le principe de carte du monde, En fait, on a l'impression qu'on partage nos réalités, et en vrai, on en partage une petite partie seulement de nos réalités. Hein. Ce qui te semble à toi être une absolue vérité, ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est toujours d'avoir ça en tête quand on est praticien en hypnose. Donc, par exemple, un exemple concret, c'est quelqu'un qui va me dire, de toute façon, moi, je grossis parce que je suis stressée. Et quand on est stressé, on mange. Hein, et ça lui semble être une évidence que quand on est stressé, on mange. Pour autant, pour quelqu'un d'autre, quand on est stressé, on mange plus. Il n'y a plus rien qui passe. Hein, les gens, ils nous disent, j'ai la gorge nouée, il n'y a plus rien qui se passe quand je suis stressé. Donc, ce qui te semble être une absolue vérité ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, je me demande toujours comment est-ce qu'une séance d'hypnose peut être la même pour tout le monde? Comment est-ce qu'on peut recevoir des groupes avec 20 personnes qui arrêtent de fumer? Parce que ces 20 personnes, elles sont forcément toutes différentes. Donc voilà, ça c'est mon questionnement à moi, et sûrement que les gens qui font ce genre de choses ont une réalité différente de la mienne, et ça c'est ok aussi.
Donc s'assurer que le praticien s'adapte bien à la personne, et après, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, c'est peut-être le cas déjà chez les autres praticiens que tu as rencontrés, je sais pas, mais en tout cas, quand quelqu'un vient demander d'arrêter de fumer, il y a un besoin à l'intérieur, dans le fait de fumer. Hein. Souvent, c'est quelque chose qui a été mis en place plus tôt dans la vie, comme ça, qui se présente un peu de manière automatique. Les gens, ils savent plus pourquoi ils fument, même souvent, consciemment, ils savent qu'il faudra arrêter de fumer. Et il y a une autre partie d'eux qui fait qu'ils fument, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc, on va venir travailler sur le besoin de cette partie-là. Okay. Et puis venir travailler aussi sur la motivation de la partie qui a envie d'arrêter. Okay. Dans l'hypnose, l'inconscient, en tout cas dans l'hypnose ericksonienne, ça a été le truc d'Erikson vraiment fondamental, ça a été de se dire que l'hypnose, c'était pas l'inconscient de Freud, tu vois, qui est un peu un espèce de réservoir comme ça, un truc un peu refoulé, un peu noir souvent. L'idée en tout cas de l'inconscient pour Erikson, c'était de se dire que c'était, et c'est là le truc fondamental, un réservoir de ressources. Tu vois, une énorme machine à apprendre, un réservoir de ressources qui pouvait en fait aider la personne. L'idée, c'est de se dire que la personne, elle a déjà la ressource et la solution à l'intérieur d'elle. En accompagnement en hypnose, le présupposé massif, il est là. De se dire que la solution, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas du praticien. D'ailleurs, moi, je dis souvent aux gens, je ne fais rien et je ne sais rien. Hein, je suis la plus grande des flemmards, des gens, suis fière. C'est vous qui faites. Tu vois, donc on est assez loin de l'idée, en fait, de l'hypnose passive, où c'est la personne, tu vois, le praticien qui ferait un truc. Non, c'est la personne qui fait. Le praticien, il est là pour lui montrer, voilà, quel peut être son chemin à lui, pour aller sous hypnose. Mais la personne, elle sait faire. Elle sait faire, elle a les ressources. Et en fait, elle les a déjà en elle, et juste c'est comment je vais les mobiliser, comment je vais les mettre en place. Mais souvent, arrêter de fumer, par exemple, les gens, ils ont à d'autres moments de leur vie arrêté plein de choses, du jour au lendemain, ils savent très bien le faire. La question, c'est comment cette compétence qu'ils ont à cet endroit-là, on vient la mettre à l'endroit de la cigarette, tu vois. Mais ils savent déjà le faire. Mais surtout, il faut, voilà, prendre en compte la partie qui avait besoin de fumer jusque-là. L'idée, c'est que souvent, les gens, ils s'écoutent pas, en fait. Hein, c'est une manière de s'écouter aussi, l'hypnose. Ils n'écoutent pas cette partie-là. Et du coup, elle vient mettre en place des stratégies comme ça, de manière un peu anarchique. Peut-être des stratégies qui vont pas à toutes les parties de la personne. Il y a d'autres parties de la personne qui sont pas OK avec cette stratégie-là. Mais elle fait bien ce qu'elle peut, cette partie. Donc, l'idée, ça va être ça. Ça va être de venir discuter pour venir déjà réfléchir à ce qui se joue à cet endroit-là. Alors, il y a ce qui se joue consciemment que la personne va pouvoir dire, il y a aussi ce qui se joue inconsciemment.
C'est ce que tu disais, la personne vient avec une problématique, mais souvent, tu vas travailler sur un tout autre axe.
C'est ça. Ça peut être, par exemple, pour donner un exemple concret et un peu lisible pour les gens, qu'il soit simple, ça va être, par exemple, quelqu'un qui va me dire, j'ai commencé à fumer, j'avais à peu près, j'en sais rien, 17 ans. Et à ce moment-là, ça faisait un an que j'avais perdu mon père, par exemple, que mon père est mort de manière subite. Et à ce moment-là, il va y avoir de l'émotion qui va être en place quand il va me parler de son père. L'émotion est toujours là. Hein. Et en fait, l'hypnose, c'est avant tout un accompagnement de l'émotion. On n'est pas dans un accompagnement analytique, en fait. Il y a plein d'accompagnements analytiques qui fonctionnent très bien, et c'est OK, mais en hypnose, on travaille à un autre endroit. On travaille vraiment sur l'émotionnel. Donc on va plus s'attacher à ce que dit l'émotion, aux émotions qui se présentent, on va plus s'attacher qu'à une réflexion analytique où finalement les gens, ils ont l'habitude de se raconter cette histoire-là quelque part. Tu vois, ils viennent, les gens, ils se racontent une histoire qu'ils se sont déjà racontée plein de fois. Ils analysent très bien en général leurs problèmes. Ils savent très bien ce qui se joue, tu vois. L'idée, ça va être plutôt d'aller écouter l'émotion et d'aller travailler avec cette émotion. Donc souvent, les gens qui viennent me voir me disent, oh là, qu'est-ce qu'on pleure chez vous, qu'est-ce qu'on rit aussi, et qu'est-ce qu'on, parce qu'on vient écouter cette émotion-là.
Tu peux me définir une émotion, ce que tu entends par émotion, qu'est-ce que c'est ?
Ouais. Une émotion, ça va être un chamboulement qui se présente à un moment, qui va venir créer des marqueurs externes. Alors, ça peut, ils sont plus ou moins forts, ces marqueurs externes. On peut avoir une émotion et qu'ils soient très fins, ces marqueurs. Mais effectivement, ça va être pleurer, rire, avoir peur, être en colère. Tout ça, c'est des émotions. Alors, et puis toutes les émotions qui viennent se mélanger, qui sont comme ça. Hein, là, on est sur les émotions un peu primaires avec lesquelles on arrive, tu vois, sur cette terre. Le bébé, il a besoin d'être en colère, il a besoin de pleurer, il a besoin d'être triste, il a besoin d'être en joie. Et il a besoin d'avoir peur aussi. Et tout ça, ce sont des émotions qui sont primaires, tu vois, qui sont basiques et qui permettent déjà au bébé qui arrive de communiquer et qui nous permettent à nous tous les jours de communiquer. Et puis quand tu les mélanges, ça fait plein d'autres émotions. Hein, ça, j'aime bien, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, sûrement pas d'ailleurs, mais j'aime bien les comparer aux couleurs primaires, tu vois. Mais ce qui est important, finalement, c'est de comprendre que l'émotion, c'est un message. C'est un messager, l'émotion, en fait. Et souvent, on vient incriminer le messager. On vient de dire, je suis tout le temps triste ou je suis tout le temps en colère. Et ça me gonfle, tu vois. Et les gens, ils arrivent, ils ont le droit d'être gonflés par ça. Mais en même temps, ils sont en train d'incriminer le messager à cet endroit-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle vient dire, cette émotion. Tu vois, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière ça. Alors, pour faire en très très simple et en très, pour le coup, binaire, souvent, derrière une peur, par exemple, il y a un besoin de sécurité. Tu vois, quand t'as peur, en fait, c'est que t'as besoin de te mettre en sécurité. La peur, c'est une vieille, vieille émotion. C'est une émotion très archaïque, hein, qui date d'il y a, j'en sais rien, sûrement quand on était au temps des cavernes. Ben, en fait, ton corps, il lançait les bonnes hormones à ce moment-là, hein, l'adrénaline, le cortisol, qui fout tout le sang dans les pieds et qui fait que les gens, ils se barrent en courant, tu vois. Et ça, c'est utile. Ça, c'est utile. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'est une vieille émotion, et que aujourd'hui, quand les gens, j'en sais rien, ils parlent en public, par exemple, et que ils ont l'impression qu'ils vont tomber dans les pommes parce qu'ils ont tout le sang dans les pieds, parce que ils se sentent en danger à cet endroit-là, sûrement qu'effectivement ils sont capables rationnellement de se dire qu'ils sont pas en danger et que il y a pas la peine d'envoyer tout le sang dans les pieds mais il y a une autre partie d'eux qui quand il y a un besoin de sécurité, envoie la peur, et cette peur. Il y a trois réactions fondamentales, archaïques à la peur. C'est soit l'agression, on rentre et on attaque l'animal, j'ai envie de te dire, si on reprend l'histoire de l'animal. Donc on rentre dans l'action, et ça fait que la peur, du coup, elle peut s'enlever, puisqu'elle a fait son job, quelque part, la peur. L'émotion, elle a fait son job à cet endroit-là. Soit la fuite, soit la sidération.
Hein ? Sidération.
Sidération, c'est le lapin dans les phares, tu vois ? C'est quand il reste, on reste bloqué. Comme ça, bloqué. Et je pense qu'on a tous pu expérimenter, à certains moments, quand on a très très peur, cette sidération de « ok, j'ai peur pour ma vie ». Et c'est important de comprendre cette émotion parce qu'aujourd'hui, c'est par exemple ce qui se passe chez plein de personnes, par exemple, quand elles craignent pour leur vie. Donc par exemple, dans les agressions massives où la personne elle a l'impression qu'elle peut mourir, hein, dans tout ce qui va être aussi agression sexuelle, notamment pour les enfants. On dit aujourd'hui, c'est un débat de société, aujourd'hui, on dit les enfants, il n'a pas dit non, l'enfant, mais en fait, l'enfant, il n'est pas capable de dire non, parce qu'à ce moment-là, il rentre en sidération. Et cette sidération, il y a à ce moment-là un process de tétanie, oui, mais qui est avant tout un process de mise en sécurité du corps. Hein, c'est ça qui est important de se rendre compte, c'est que c'est une partie de la personne qui vient la mettre en sécurité à cet endroit-là, et qui dit, ok, il y a un prédateur, je ne bouge plus, parce que les prédateurs, avant tout, sont intéressés par le mouvement, normalement. Donc tout ça, c'est des... Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure réponse à ce qui peut se passer à cet endroit-là, mais c'est une réponse archaïque. C'est une réponse qui est créée par les hormones du corps, et il faut comprendre que là, on est dans ce qu'est un être humain, en fait, hein, et qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Donc on va s'intéresser à tout ça en hypnose, tu vois. Et quand... Je me souviens, quand on a préparé cette émission, je te disais, l'hypnose, c'est des neurosciences, en fait. On a l'impression que l'hypnose, ça peut être un truc un peu perché. Et ça peut être aussi ça à certains moments. On va venir se reconnecter à la symbolique. On va venir se reconnecter à des choses qui viennent peut-être aussi d'endroits beaucoup plus symboliques à l'intérieur des gens. Mais on est dans aussi les neurosciences, notamment dans tout ce qui est mise sous hypnose en termes de technique. Et dans tout ce qui est émotionnel, à quel endroit ça se situe, comment est-ce qu'on le gère, tout ça. Et quelles ressources on a face à ça. Donc... L'hypnose retrouve ses lettres de noblesse aussi parce qu'aujourd'hui, on a des lectures de ça. Hein, avec les IRM, avec les images cérébrales, on a des lectures. Aujourd'hui, on sait, alors on ne sait pas tout à fait encore comment ça se construit, hein, Mais on sait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau. C'est pas juste des phénomènes où les gens ils font comme ça du spectacle et qu'ils ont envie de se donner en spectacle. On sait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sous hypnose. Donc c'est ça aussi qui commence à redonner ses lettres de noblesse à l'hypnose. Hein. Et ma foi, si on peut chercher comment est-ce qu'on fait pour alors tu parlais tout à l'heure de guérir. En hypnose, on va surtout dire qu'on ne guérit pas. Parce que guérir, c'est pour le coup plutôt quelque chose de l'ordre des médecins. Et on fait très attention à tout ce qu'on utilise hein, comme terme. Mais on est dans l'ordre de l'accompagnement. Et oui, si ça permet d'aider et d'accompagner certaines problématiques qui sont de l'ordre voilà, de la douleur, de l'ordre, ben c'est super. On va apprendre à l'autre que la douleur, c'est une information et qu'elle peut la gérer et qu'elle peut en prendre le contrôle de cette information à l'intérieur d'elle. Si ça aide à d'autres endroits, ok, mais l'hypnose, ça ne guérit pas. Ça aide à accompagner l'émotion.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Est-ce que tu peux me parler de différentes problématiques? Parce que tu me parlais des peurs, donc peur de l'avion, peur des araignées, peur des serpents, donc les phobies. Tu me parlais aussi des dépendances au tabac, enfin voilà, donc la dépendance, la peur. Quelles sont les autres pathologies que les gens vont venir poser sur la table?
Alors, y a plein de choses. En fait, vraiment, tout ce qui peut sembler être un dysfonctionnement et demander un changement pour la personne. Alors là, je te parle de dysfonctionnement, mais ça peut être aussi, bien sans aller jusqu'au dysfonctionnement, quelque chose qui embête la personne. On a vraiment de tout en cabinet. De la personne qui vient juste pour, comme tu dis, quelque chose de très comportemental, je fume, ok. Mais quelque part, je fume, ça peut aussi se situer à d'autres endroits pour les gens. Notamment, par exemple, tu me dis si tu me suis toujours, mais au niveau identitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te dire « je suis fumeur », c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient te dire « je fume ». Tu vois, cette nuance-là. Il y a des gens qui placent le fait de fumer au niveau du comportement, et puis il y a des gens qui placent ça au niveau identitaire. Je suis fumeur. Et forcément, ça ne demande pas le même accompagnement derrière, tu vois. Si pour toi, je ne sais pas, t'as de jolis yeux bleus, par exemple, si avoir des yeux bleus, c'est quelque chose d'identitaire chez toi, bah, tu comprends que si tu places le fait de fumer au même endroit, ça ne va pas être le même travail. Donc forcément, si quelqu'un place le truc au niveau comportemental, on ne va pas non plus avoir la même longueur d'accompagnement que si quelqu'un le place au niveau identitaire. Forcément, il va falloir bouger d'autres choses. Ça peut être j'ai envie de travailler mon histoire personnelle, ou vraiment là on est dans l'identitaire, j'ai envie de travailler, on travaille en régression en hypnose, c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer les autres nous, le petit garçon par exemple à l'intérieur de toi qui a 6-7 ans, qui est en train de vivre un truc et qui est en train de vivre un truc qui a toujours un impact chez l'homme que tu es devenu, et puis on va pouvoir aller travailler même en futurisation. Avec le très vieux toi, peut-être qui est au dernier moment de sa vie et qui regarde sa vie et qui a envie de se dire des choses plus positives sur sa vie que ce qu'il se raconterait si ça continue de cette manière-là. On peut travailler donc du coup vraiment, tu vois, sur des trucs même vraiment en termes de bah, vraiment de qui je suis. Et puis on peut travailler au niveau voilà. Donc ça peut être des gens qui vont venir travailler, je sais pas, la peur en public, la peur de parler en public. Ça va être le voilà, comme tu disais, le tabac, la phobie de l'avion. Ça peut être les enfants. Moi je reçois beaucoup d'enfants par exemple en cabinet qui vont venir travailler sur l'énurésie, par exemple le fait de faire encore pipi au lit la nuit, qui vont travailler sur la concentration. Ça peut être des sportifs qui viennent travailler sur des ancrages, des apprentissages. Tu vois, comment est-ce que je me mets dans le meilleur des états pour faire le meilleur match possible, par exemple. En fait, on ne se rend pas compte, mais des ancrages, on en a plein. Et par exemple, le tennisman, par exemple, tu sais, quand il vient taper sa balle juste avant le service par terre, tu vois, quand il vient la faire rebondir, ben en fait, ça, c'est un ancrage. Il est en train de créer à ce moment-là le meilleur des états possibles, la meilleure des concentrations possibles pour pouvoir faire le meilleur des services possibles. Et ça, du coup, en hypnose, ben, on le travaille super bien avec les sportifs, parce qu'à ce moment-là, on reprend le contrôle sur nos ancrages. Par exemple, il y a des gens qui viennent nous voir pour le poids, mais on va plutôt travailler sur, soit vraiment au niveau symptômes, on va travailler sur ça, mais on peut travailler aussi sur, ben, si, sur l'ancrage aussi de l'assiette, sur quelle émotion il faut que j'aie pour ne pas avoir besoin de finir mon assiette totalement. On va travailler aussi sur bah, qu'est-ce que j'ai, par exemple, au niveau plus en surface, tu vois, plus symptomatique, sur bah, à chaque fois que je passe devant mon placard à gâteau, bah, je me souviens par exemple de cette dame qui me dit bah, chaque fois que je passe devant mon placard à gâteau, je ne peux pas faire autrement que de l'ouvrir et de prendre du chocolat, par exemple, ou du gâteau. Bah, quelle sensation il faut que j'ai en passant devant ce placard à gâteau pour ne pas avoir besoin de l'ouvrir? par exemple. Et là, on travaille vraiment en symptômes. Hein. Et du coup, ben, en fait, comme en hypnose, on reprend le pouvoir finalement sur nos sensations, sur nos émotions, et ben, on va venir tout simplement lier l'image du placard à gâteau à une autre émotion ou à une autre sensation. Okay. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que l'hypnose, c'est efficace, c'est pas magique. Tu vois, c'est pas l'hypnotiseur qui vient te dire « Oh, regarde-moi, et puis tu changes, et puis ton placard à gâteau, t'en es dégoûté quand tu passes devant. » Tu vois, c'est pas du tout ça. C'est « Ok, il y a plein d'autres moments où tu regardes, je sais pas, tu regardes des brocolis et t'as cette sensation-là, bah, cette sensation-là, tu la connais, et bah, finalement, on va recréer la même sensation que quand t'as des brocolis en regardant ton placard à gâteau. » Tu vois, forcément, si t'as des brocolis dans ton placard à gâteau, bah, forcément, ça te fait pas la même impression. Donc, on peut comme ça jouer sur toutes nos perceptions, sur toutes nos sensations, sur toutes nos émotions. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un peu une aberration de dire que l'hypnose, c'est une perte de contrôle. C'est une récupération de contrôle. Ok, je décide que quand je place mon placard à gâteau, ça me fait la sensation du brocoli, bah, ça me fait la sensation du brocoli. Je suis plus en fait en train de subir ma tête, mon corps, mes émotions, mais je suis en train d'en prendre le contrôle. Et c'est moi qui décide. Et là, du coup, ça devient intéressant.
C'est quoi alors ce que j'ai vu quand j'étais gamin à la télé, du monsieur qui vient comme ça, qui fait tac, tu t'endors, tac, tu te réveilles.
Ouais. Alors ça, on est dans l'ordre de l'hypnose de spectacle en général, et même quand on est dans l'ordre de l'hypnose thérapeutique, on est dans des vieilles hypnoses qui ne fonctionnent pas sur tout le monde. Ça, c'est important de se rendre compte de ça. Quand tu vas voir des gens qui font des spectacles d'hypnose, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. D'ailleurs, ça n'est même pas fait pour ça. C'est fait pour que ce soit spectaculaire. Hein. Moi, ici, je ne fais pas forcément du spectaculaire. Ça arrive que ça le soit, mais je ne fais pas forcément du spectaculaire. Je fais de l'efficace. J'essaye, en tout cas, que ce soit le cas le plus souvent possible, tu vois. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces gens qui se prêtent à ces jeux-là, ils ont bien envie de jouer. À aucun moment, il y a une prise de contrôle. L'hypnotiseur, quand il te dit « Oh, je vais faire en sorte que, j'en sais rien, vos mains se rapprochent et que vous, sans que vous puissiez faire autre chose que ça », en fait, c'est l'inconscient de la personne qui est en train de le faire. Hein. L'hypnotiseur de spectacle, son rôle, c'est que ce soit spectaculaire et qu'il te dise que c'est lui, mais en vrai, le type, il fait rien. Tu vois, en vrai, c'est la personne qui a bien envie de jouer à ça. Mais c'est OK, tu vois. Les gens, ils ont envie de tenter cette expérience de l'hypnose. Ils ont envie de faire ce tour de manège de l'hypnose. Et c'est OK. En fait, l'hypnotiseur de spectacle, il fait des tests au début de son spectacle. Et il va prendre les gens qui sont les plus réceptifs tout de suite. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Pour la simple et bonne raison que, comme je te disais tout à l'heure, ces états, tu les as déjà vécus. Tout le monde les a déjà expérimentés. Pour la bonne et simple raison que automatiser un apprentissage, bah, tout le monde l'a déjà fait. Okay. Donc forcément, à certains moments, bah, l'état d'hypnose, tu les as déjà ressentis et tu es capable d'y aller.
Mais quand on parle d'état modifié de la conscience ou d'état d'hypnose, est-ce qu'on peut le graduer? Est-ce qu'il y a différents états modifiés de la conscience? J'imagine que tu peux la modifier à des vibrations plus ou moins élevées.
Oui, bien sûr. On peut. Alors, il y a de l'état de conscience assez léger, hein, dont on parlait tout à l'heure. Celui, par exemple, sûrement, qu'on est en train d'avoir tous les deux là en discutant, où effectivement, bah, peut-être que tu penses plus trop à ce qu'il y a autour de nous, peut-être que, parce que t'es complètement, je l'espère en tout cas, présent, happé, passionné par ce que je suis en train de dire. Et puis, jusqu'à effectivement des états de conscience, des états d'hypnose, pardon, qu'on va appeler somnambuliques, où là, effectivement, les gens sont dans des transes très, très, très profondes, où ils peuvent effectivement avoir des amnésies en se réveillant, voilà. Mais entre les deux, il y a une somme d'états modifiés de conscience qui est infinie, hein, et qui est les états de conscience que la plupart des gens, les gens vont expérimenter en cabinet. Okay. La plupart du temps, en cabinet, on se souvient très bien de tout ce qui s'est dit, on est présent, il y a juste une autre partie de nous en même temps qui est présente. Et ça, on le sait parce qu'il y a des mouvements dans le corps en automatique qui se font, parce qu'il y a des images qui arrivent un peu de manière spontanée. Tu sais, ça peut faire un petit peu comme cet état qu'on a parfois quand on s'endort, où tout d'un coup, tu as des images qui arrivent, tu sais, tu te dis, mais tu as encore un peu de conscience qui est là, et tu te dis, mais c'est quoi ce truc qui vient, c'était rigolo cette image qui vient d'arriver, ça vient un peu de nulle part, et puis des fois tu te réveilles complètement, et puis des fois tu te laisses plonger complètement dans le sommeil. Mais c'est vraiment un état qui n'est pas du sommeil, qui n'est pas du sommeil, qui n'est pas non plus un état de conscience habituel, c'est vraiment un truc un peu entre les deux, quoi. Mmh. Okay, avec effectivement des variations en termes de profondeur entre les deux.
Mais c'est génial tout ce que tu me dis, j'aime beaucoup t'écouter, bravo. Mais alors ce que je vais retenir, que je retiens, c'est déjà bien choisir son thérapeute. Hein, tu parlais de cette formation qui est vraiment important d'avoir des notions, des bases. Tu parlais de neurosciences, tu parlais de psychologie. Donc faire attention ce qu'il y a derrière la plaque posée devant un mur quand on va voir quelqu'un qui propose l'hypnothérapie. Quoi d'autre?
Ensuite, ce qui est important, c'est toujours de se souvenir, à mon sens, que l'état d'hypnose, ça s'apprend, okay, et que c'est pas magique. Ça, c'est très, très important. On a souvent des gens qui arrivent avec des vraies démarches de changement, mais qui ont l'idée que ça va être magique, et qui parfois peuvent être un peu déçus. Alors, c'est dommage, ça, parce qu'effectivement, si on part par contre du principe que on est dans le cadre des thérapies brèves, ok ? Mais bref, c'est pas des thérapies instantanées. Thérapie brève, on est dans l'idée de moins de 2 ans. Tu vois, nous, la plupart du temps, on va recevoir les gens peut-être 5, 10 séances peut-être. Alors voilà, en fonction du cadre de séance, il y a des hypnos qui vont décider de voir les gens de manière relativement rapprochée, des gens de manière relativement espacée. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, c'est avoir une démarche de changement et c'est être actif là-dedans. C'est pas un truc où on est passif, l'hypnose, et c'est pas un truc magique. C'est un truc efficace. Même très efficace. Et le problème du fait, quelque part, que ce soit très efficace, c'est que ça maintient un peu cette idée que c'est magique. Tu vois, l'idée de la personne qui va, en une séance, avoir arrêté de fumer, qui va, en une séance, avoir sa vie qui est révolutionnée, bah, ça entretient un petit peu, quelque part, parce qu'elle va dire « Oh là là, moi, en une séance, l'hypnose, ça a été magique. » Et j'ai « Oh, machin !» Ça arrive. On peut pas dire que ça arrive pas. Je pense que tous les hypnos, tous les accompagnants en hypnose, ça nous arrive d'avoir ce genre de choses. Mais c'est pas la majorité des gens. Et c'est OK. Je trouve que déjà, quand on a une vraie envie de changement, changer en quelques séances, c'est déjà un peu magique, non ? Quelque part. Hein ? C'est déjà chouette, ça. Donc voilà. Bien choisir son praticien. Bien garder en tête que c'est pas magique. Bien garder en tête que ce n'est pas de l'inconscience, cet état-là. Et que ça peut être un état qui s'apprend. Des fois, on met 1, 2, 3 séances à apprendre aux gens l'état d'hypnose. Et Erickson, il pouvait, des fois, pendant 4, 5 heures, juste entraîner les gens à la transe. La transe, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des gens qui, spontanément, vont savoir y aller tout de suite. Et puis, il y a des gens, ils ont besoin d'apprendre. Okay ? Et garder en tête que c'est quelque chose de très... J'ai souvent des gens qui me disent, vous savez, moi, je suis très cartésien. Okay. Alors, je ne sais pas très bien ce que Descartes a à faire dans cette histoire de l'hypnose. Et de... Parce que finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Alors finalement, l'hypnose, c'est plutôt quelque chose de très cartésien. Mais dans le bon sens du terme, dans le sens de quelque chose qui se vit et qui est vérifiable. Et voilà. Et garder en tête le fait que tout le monde est suggestible, tout le monde est hypnotisable. Mais parce que tout le monde est suggestible à lui-même, en fait. La preuve en est, c'est qu'on est capable souvent de se faire de très mauvaises suggestions à soi. Quand on ne sait pas comment notre cerveau fonctionne, on se fait de très mauvaises suggestions hein, à soi et aux gens qu'on aime, parce que tout simplement, on ne sait pas comment ça marche. Hein, quand on va dire à un gamin, surtout pense pas ça, ou surtout ne stresse pas, c'est pas facile hein, de penser à pas stresser quand on nous dit de pas stresser, parce qu'on commence à penser à stresser, tu vois. Donc voilà, si je te dis de pas penser à un éléphant rose. Et si je demande à tout le monde derrière leur poste de ne pas penser à un éléphant rose, bah c'est compliqué. On commence à penser à un éléphant rose. Donc pitié, arrêtez de dire aux enfants de ne pas stresser quand ils ont un examen. Garde du calme ou garde de la concentration. Hein, parler au cerveau de ce qu'on a envie qu'il crée plutôt que de ce qu'on a envie, c'est vachement mieux. En fait, l'idée, je pense, de base, c'est de se dire que, et ça me semble être une bonne métaphore, l'hypnose, en fait, c'est arriver à se dire que le cerveau, c'est un GPS. En fait. Tu vois, on passe souvent du temps, quand on ne sait pas comment il fonctionne, à lui dire tous les endroits où on a envie de pas aller. Tu vois, alors que ce serait... Mais du coup, il ne sait toujours pas où il faut aller. Donc, c'est un GPS. Si tu lui donnes la bonne direction, il y va, en fait.
Okay. C'est génial. À travers ces rencontres que je fais pour cette émission radio, je me rends vraiment compte qu'on a tous quelque chose à changer, à apprendre, à découvrir, et qu'on est tous sur un chemin et qu'on a tous à se poser les questions de ce que je suis à ma place, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis aligné, est-ce que je suis ce que je veux être. Et donc, il existe vraiment cette multitude de thérapies qui existent, et c'est vraiment une chance incroyable qu'on a que de pouvoir évoluer, s'améliorer.
Ouais, absolument. Et surtout de aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même dans une ère qui est hyper intéressante où justement les gens ils commencent à se redemander comment est-ce qu'ils peuvent être actifs, comment est-ce qu'ils peuvent être même proactifs des fois, comment est-ce qu'ils peuvent eux reprendre le pouvoir sur ce qui se passe. Et ça passe aussi effectivement parfois par le fait d'aller chercher un peu en dehors des clous, un peu en dehors de tout ce qui va être traditionnel. Et ce qui est important, c'est aussi de comprendre qu'à mon sens, il n'y a pas de clivage entre les deux. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle et tous les accompagnements secondaires, on vient effectivement appuyer la médecine traditionnelle, on ne vient jamais contre ça. D'ailleurs, souvent, moi, la plupart du temps, je commence par demander aux gens, quand ils viennent me voir, s'ils ont vu un médecin, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme démarche d'accompagnement, est-ce qu'ils ont vu un psychologue, est-ce qu'ils ont vu un psychiatre, est-ce que... Et aujourd'hui, en tout cas en hypnose, on travaille de plus en plus en corrélation avec les médecins. médecins. Moi, aujourd'hui, j'ai des médecins qui m'envoient des gens, j'ai des psychologues qui m'envoient des gens, j'ai des psychiatres qui m'envoient des gens, parce qu'on ne travaille pas tout à fait au même endroit. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que tout ça, bah, finalement, ça permet de, bah, d'avoir des accompagnements qui commencent à être en tout cas plus dans le respect de notre globalité. Tu vois, on n'est pas que... qu'un corps qui réagit à des molécules chimiques, on n'est pas non plus qu'une âme spirituelle qui flotte hors du corps. Alors voilà, on pourrait encore le discuter tout ça, tu vois, je sais pas dans quelle mesure on est tout ça, on est dans le domaine des croyances et des miennes pour le coup que je viens d'exposer là, mais en tout cas à mon sens tout ça c'est des techniques qui permettent de travailler beaucoup plus dans la globalité de ce qu'on est et dans des choses qui donnent du sens.
OK. Merci, c'est OK. Tout est OK.
C'est OK, oui. J'ai un petit problème.
Merci Anne.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.